Apple reporte le passage à 3 jours de présence au bureau par semaine et rend le masque à nouveau obligatoire pour ses salariés dans les Apple Store et les espaces partagés. Apple, première grande entreprise à acter la recrudescence du Covid aux États-Unis, c'est l'événement de la semaine dans iWeek. Sans doute les dernières mises à jour avant de découvrir les prochains OS dans 18 jours à la WWDC 2022. Qu'apporte iOS 15.5 ou encore macOS 12.4 ? Faut-il les installer dès maintenant ? Tous les détails et nos réponses à suivre. Google met la pression sur Apple avec les successeurs des Google Glass 10 ans après, des lunettes dont l'unique fonction connue fait déjà envie, la traduction en temps réel incrustée dans votre champ de vision comme les sous-titres d'une série. Ce sera l'une des infos de la semaine dans Pommes. Ma maison connectée, le retour avec François Le Truédic et des nouvelles encourageantes du côté de Matter, le standard qu'on attend tous. 13 satellites potentiellement commandés par Apple, peut-être bientôt au-dessus de nos têtes pour relayer nos appels d'urgence. Ce sera l'une des rumeurs de la semaine. Et puis, comme promis, suite du tuto audio, après le Mac la semaine dernière, c'est sur iPhone et iPad que je vais vous expliquer comment extraire l'audio d'une vidéo. C'est la dernière dizaine avant l'épisode 100, on en reparlera évidemment. En attendant, place à ce numéro 91 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast en ce jeudi 19 mai 2022. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous à ce rendez-vous hebdo qu'on vous donne avec ce qui est devenu le podcast de référence pour tout savoir de cet écosystème qui s'est construit au fil des années autour d'Apple et de ses produits. Un épisode presque intimiste aujourd'hui, puisque je suis accompagné de François Le Truédic et Fabrice Neumann, les deux F de la Team iWeek. Salut à tous les deux.
Salut Benjamin. Je sais pas si les deux F c'est super formidable parce que c'est en notation américaine dans les écoles, ça veut dire qu'on a zéro quoi. Alors...
François, toi, t'enlèves... t'es le prof de l'équipe, qu'est-ce que t'en penses ?
Bon, tu peux enlever le Z si tu veux, on peut dire les deux héros de l'équipe si tu préfères.
Voilà. Tout ce que vous voulez, du moment que vous restez jusqu'à la fin. Bon, j'ai pas évoqué les coups de cœur dans le sommaire. Est-ce que vous en avez un chacun ? Est-ce qu'on peut avoir un petit indice avant la fin de l'épisode, François ?
Allez, moi, il sera question de photos.
Ah, Fabrice ?
Et moi, il sera question de jeux.
Bon, ce sera pour la fin. Dans un instant, tout sur les mises à jour arrivées mardi et l'événement de la semaine. Le retour du Covid déjà acté par Apple aux États-Unis. Mais avant ça, on aimerait vous dire un petit mot sur nous. C'est un compte à rebours que nous avons lancé dimanche soir à minuit. Un J-15 qui est déjà à J-12 en ce jeudi. Avec une échéance donc au 31 mai, ce sera un mardi. Et si on vous en parle aujourd'hui, bah c'est pour que vous soyez au courant. Mais en même temps, on est bien embêté parce qu'on ne peut encore rien vous dire. En fait, on pourra vous en parler dans quelques jours. Ce sera lundi, le 23 mai. C'est la première des dates qu'il faut que vous ayez en tête. Lundi 23, on va vous annoncer ce que sera cette grande nouvelle qui deviendra réalité 7 jours plus tard, donc 8 jours plus tard même, le mardi 31. Et la veille, le lundi 30, on vous propose de faire une croix sur votre agenda. Lundi 30 mai, 18h. Sur Twitter et plus précisément Twitter Space, un chat audio live avec toute l'équipe d'iWeek pour vous parler de cette nouvelle qui concerne i5 et qui se concrétisera dès le lendemain. On sera aussi à 7 jours pile de la keynote et de l'ouverture de la WWDC, donc je pense qu'on aura pas mal de sujets à aborder. Comment vous vous sentez alors que le compte à rebours a commencé, mes amis, François et Fabrice?
Ben, fébrile, parce qu'on a hâte de pouvoir le dire à tout le monde.
François?
Moi, je préfère me taire, parce que je pourrais faire une boulette, et puis faut éviter de faire des blagues gratuites, ça sert à rien, je pense.
Tu penses à une blague gratuite?
Ouais, mais je vais pas la faire. Je la garde pour le Twitter Spacey, je pense que ce sera plus prudent.
Ah bon, d'accord. C'est con, là, tu nous as donné envie.
Faudrait nous écouter le 30 mai.
Bon, alors pour participer à ce Twitter Space, il suffira de cliquer sur le lien dans le tweet que nous publierons sur Twitter, hein, sur le compte iWeek News, dans les minutes ou les quelques heures qui précéderont donc ce chat live le lundi 30 mai à 18h. Dans un instant, l'événement de la semaine, Apple qui anticipe le retour du Covid aux États-Unis et fait marche arrière dans les Apple Store et dans ses bureaux. À tout de suite. Apple est donc la première entreprise à réagir, en tout cas la première entreprise de cette taille aux États-Unis, à ce qui semble être un début de retour du Covid avec des statistiques en hausse. Apple reporte le passage à la troisième journée hebdomadaire en présentiel dans ses bureaux. Le masque est à nouveau obligatoire pour les employés dans les Apple Store aux US, une centaine d'Apple Store. Est-ce que cette nouvelle vous a surpris, François et Fabrice ? Double nouvelle.
Moi, je serais tenté de te dire que oui, parce que j'ai pas spécialement suivi les derniers chiffres de la Covid. C'est vrai qu'en France, on voit que les chiffres sont repartis à la baisse de nouveau, même si on entend évoquer par-ci par-là encore des nouveaux variants, des nouveaux dérivés d'Omicron. Donc voilà, aux États-Unis, ça a l'air de repartir. Maintenant, c'est étonnant parce que c'est pas du tout nous à notre échelle ce qui est en train de se passer en France. Donc, Apple a toujours eu une politique prévoyante. Donc, je pense que c'est aussi dans ce sens-là. Je pense que Apple souhaite protéger ses salariés. Ils ont pris pas mal de petits coups de règles sur les doigts depuis quelques semaines là avec les histoires de syndicats, etc. Donc, je pense que c'est peut-être aussi un moyen pour Apple de se protéger.
Fabrice, toi qui as une sensibilité à l'actu américaine. Moi, j'ai le sentiment que Apple réagit très très vite là.
Mais ils réagissent très vite, mais ils réagissent tout le temps très vite, c'est-à-dire pour dire oui et pour dire non. On sent que il y a une vraie volonté de la part d'Apple, en tout cas de la part de la direction d'Apple, de faire revenir tout le monde dans les bureaux, mais ils n'y arrivent pas. C'est un peu surprenant. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que je trouve franchement qu'Apple manque un peu de souplesse là. C'est-à-dire que ils ont coutume de dire, et c'est il me semble que c'est un des mantras de Tim Cook, de dire mais on ne peut pas travailler. Enfin, notre modèle, c'est de faire se rencontrer les gens et qu'ils puissent travailler ensemble et que c'est comme ça qu'on innove. Même si on peut discuter sur le fait que au sein d'une équipe, c'est peut-être important chez Apple, mais entre les équipes, pas vraiment, puisqu'il y a beaucoup d'étanchéité entre les équipes. Mais donc, ça fait 3-4 fois qu'ils annoncent une sorte de retour à marche forcée, en plus contre la volonté de certains salariés, voire beaucoup, qui font des lettres ouvertes pour dire « mais nous, on veut pas, ou pas dans ces conditions, ou ceci, cela », et puis ils font de nouveau une marche arrière. Donc je trouve ça bizarre. Pour une entreprise qui innove, en plus, je trouve ça dommage qu'ils n'arrivent pas à montrer l'exemple en trouvant une nouvelle souplesse de travail. En plus, ils en ont les moyens technologiques par définition, et ils ont l'air de vouloir quand même retourner de manière forcenée au travail au bureau. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus, en fait, qu'il n'y ait pas de leur part quelque chose d'innovant en termes de travail et de travail à distance pour les salariés d'Apple.
Bon, là, on était à quelques jours de la troisième étape de ce retour au bureau avec le passage à 3 jours par semaine. C'est l'une des raisons apparemment qui a poussé un certain nombre de salariés à quitter Apple hein, ces derniers jours, ces dernières semaines, dont le désormais célèbre Ian Goodfellow qui est reparti chez Google, qui était le patron du machine learning chez Apple depuis 3 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Apple met en avant le principe de précaution sur la base de chiffres qui, depuis quelques jours à peine, repartent à la hausse ?
Oui, et puis est-ce que c'est pas aussi un moyen pour Apple de manger son chapeau ? Les salariés ont quand même énormément insisté sur le fait qu'ils souhaitaient continuer à pouvoir faire plus de télétravail, voire la quasi-totalité. Apple voulait les faire revenir, et finalement, peut-être que le fait aussi que notre ami Goodfellow ait dit « moi j'arrête parce que j'y retrouve pas mon compte », alors je pense qu'il n'y a pas que ça, parce qu'on a vu qu'il était déjà retourné chez Google, donc à mon avis, il n'y avait pas que ça qui était en jeu.
Ça le fera pas revenir, hein.
Non, mais à mon avis, il reviendra chez Apple dans 3 ans peut-être. Mais est-ce que c'est pas un moyen aussi pour Apple de manière discrète, cachée, lâcher sur le télétravail et attendre un petit peu de voir venir aussi, peut-être.
Fabrice, le retour du masque dans les Apple Store, ça c'est quand même un signe très visible d'une forme de retour en arrière à une époque qu'on avait envie de laisser derrière nous, hein.
Oui, on avait déjà évoqué le parallèle entre une sorte d'indice Apple qui nous permet de mesurer la gravité de la crise Covid par pays, comme il y a un indice McDo de l'indice des prix de chaque pays, parce qu'on peut voir ça en fonction du prix du Big Mac. Donc on sait que les équipes d'Apple, comme beaucoup d'entreprises, suivent ça de très près. Voilà, donc ça montre que la crise, la pandémie n'est pas terminée. On sait que c'est le cas aussi en Chine. Hein. On en a aussi déjà parlé dans iWeek et dans i5, des problèmes de production, des restrictions à Shanghai. Ça a l'air de revenir dans d'autres villes en Chine aussi. Hein. Ça remonte. Donc, est-ce que aussi ça doit nous stresser un peu pour ce qui va se passer en Europe? Bah, on peut se le demander parce que finalement, les voyages ont repris. Hein. Je
Shanghai
voudrais
est
pas
plutôt en
faire
train de se
mon
déconfiner ces jours-ci.
Oui, mais très bien, mais du coup, ces pandémies-là sont mondiales, en gros, si je schématise un peu, depuis qu'on fait des voyages en avion intercontinentaux. Et les voyages en avion ont repris et continuent. Donc, si on suit
Ils ont
il y
repris
a des
très fort
cartes
même.
de. Il y a des cartes hein, qui montrent assez simplement que le virus se déplace avec les avions. C'est-à-dire que quand les avions étaient au sol, ça se déplaçait plus, et puis maintenant ça se déplace. Donc voilà, le fait que Apple remette le masque aux États-Unis, ça nous alerte quand même un peu. Je trouve ça. Ils sont présents dans le monde entier, je pense qu'il y a de quoi ça va nous alerter.
Il doit avoir un mauvais bilan carbone, le virus, non?
Oui, très, très,
Exactement,
très,
ouais.
très mauvais, François. Bon, on va continuer à suivre évidemment l'évolution de la situation, notamment donc chez Apple, qui reste pour l'instant à 2 jours par semaine au niveau de la présence physique dans les bureaux. On marque une toute petite pause. On se retrouve dans quelques minutes pour les infos de la semaine Pommes et notamment ce petit coup de pression signé Google avec ses lunettes traductrices assez impressionnantes. Mais dans un instant, retour sur la cascade de mises à jour qui sont arrivées mardi. À tout de suite. L'info de la semaine, bah, ça ne nous surprend pas, on les attendait depuis quelques semaines, puisqu'on voyait les bêtas enchaînés au rythme d'une nouvelle bêta tous les mardis. Ce sont les versions définitives de ces OS intermédiaires qui sont arrivées donc mardi au téléchargement. Alors on va d'abord, si vous le voulez bien, passer en vue les principales nouveautés qu'elles apportent. Et puis on verra après si on a intérêt à les installer dès maintenant ou pas. On va commencer par iOS 15.5 et iPadOS aussi. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette mise à jour? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau?
Alors, on peut dire plein de choses. Donc, effectivement, iOS 15.5 et iPadOS 15.5 ensemble, y a rien en fait qui concerne spécifiquement l'iPad, donc ce sera iOS globalement. Première chose qu'on peut dire, je crois, globalement pour toutes les mises à jour, que ce soit pour iPhone, iPad, Mac et toutes les autres, c'est la palanquée de correctifs de sécurité. La liste est longue comme deux bras, c'est assez impressionnant. Donc c'est la première nouvelle vraiment importante de ces mises à jour. Bien qu'on soit en fin de cycle pour iOS 15, la correction de bugs de sécurité est vraiment, vraiment immense. Ensuite, au niveau de quelques nouvelles fonctions, alors il y en a une qui ne touche que les utilisateurs américains, c'est tout ce qui touche à Apple Cash, qui permet puis on en reparlera un petit peu après, mais tout ce qui permet d'échanger et d'envoyer, de recevoir de l'argent avec son iPhone dans un compte Apple Cash.
Ouais.
Alors moi j'utilise un compte Apple américain, je vois Apple Cash dans l'application Wallet, qui a comme nouveauté d'avoir deux nouveaux boutons pour demander et recevoir de l'argent via Apple Cash. Donc la traduction est prête. mais on ne peut pas le faire fonctionner parce qu'il faut un compte bancaire ou une carte bancaire française. Américaine, justement, américaine, pour pouvoir le faire fonctionner. Mais voilà, c'est l'outil, l'iPhone comme outil, vraiment comme portefeuille pour stocker de l'argent et payer avec. Il y a des évolutions dans ce domaine qui, j'espère, arriveront jusqu'à chez nous bientôt. Sinon, il y a des nouvelles options dans l'application Podcast, comme vous le savez, mon application préférée d'iOS, Berk. Mais il y a quand même quelques options liées au téléchargement automatique et pour effacer aussi automatiquement les épisodes en fonction du nombre d'épisodes qu'on veut conserver ou de la durée de conservation que l'on souhaite appliquer. Il y a un truc marrant dans l'application météo, si on va dans une ville et qu'on fait défiler tout en bas, alors depuis iOS 15 il y a plein d'infos, en plus de l'ensoleillement et de la température, mais il y a aussi le ressenti, la qualité de l'air, etc. Et on peut descendre jusqu'en bas et on peut faire un rapport de problème sur ce qui est affiché dans l'application météo. Si jamais ça affiche 22 degrés au soleil et qu'on est sous la pluie, ben on peut le dire.
C'est pas mal.
C'est intéressant. Ça permet aussi de confirmer, je pense que ça peut être intéressant, on peut confirmer que ce que dit l'application météo est correct. C'est une sorte de météo participative pour améliorer les résultats et les prévisions de l'application météo. Je trouve ça vraiment intéressant. Mmh. Et c'est un peu caché, il faut vraiment faire défiler l'écran jusqu'en bas. C'est assez intéressant. Il y a des choses qui concernent l'application maison et les HomePod, mais peut-être qu'on en parlera au moment des HomePod. Un petit détail que j'ai retrouvé juste tout à l'heure, la réintroduction d'une API de l'application musique qui avait été retirée dans iOS 15.4 et qui permet à des applications tierces qui permettent de se connecter à son abonnement Apple Music, par exemple, de changer la vitesse de lecture des chansons.
Ouais. D'accord.
Alors ça, ça a été enlevé et ça a été remis, donc il devait y avoir un petit problème dans l'API. Un truc au niveau de Sports Kit, donc c'est plutôt, alors pour l'instant pour les Américains, parce que ça concerne donc la diffusion des scores pendant des matchs qui sont diffusés sur Apple TV+, mais on sait que pour l'instant c'est du baseball et peut-être bientôt du football américain, mais allez savoir, peut-être qu'il y aura aussi bientôt des matchs de Ligue 1, Ligue 2, ce que vous voulez de football en France et en Europe. Et à ce moment-là, il y a donc pour les développeurs une API qui permet de diffuser les scores en direct. Petite chose en passant qui touche Commande Universelle, qui n'est plus en bêta, ni dans iOS, ni dans macOS, comme on verra plus tard. Donc ça marche a priori toujours aussi bien et il n'y a plus la mention de bêta dans les... au niveau des réglages de cette fonction. J'ai oublié une petite chose qui touche aussi l'application Apple TV. Il y a dedans maintenant un bouton SharePlay pour lancer un visionnage en commun avec des camarades, ce que nous n'avons donc toujours pas essayé, je vous rappelle.
je crois qu'on a un blocage sur SharePlay, mais c'est bête.
Eh ben oui, bon, alors voilà. Mais donc avant, il fallait forcément ouvrir d'abord une session FaceTime et ensuite lancer un SharePlay pour lancer le visionnage. Bon, là, on peut lancer le visionnage depuis l'application Apple TV.
Non, je plaisante, on va évidemment tester SharePlay, mais on attendait la 15.5, évidemment.
Voilà, pour qu'on ait le bouton plus pratique, sinon...
François ne fait pas l'amour, ne marche François. Pas. Oui, c'est ça, mon enfumage.
Des petites choses encore. Il y a eu une annonce au moment de la journée mondiale du mot de passe. Une annonce commune à Apple, Microsoft et Google qui allait mettre en place une techno qui s'appelle Passkey en lien avec un consortium qui s'appelle FIDO, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais qui permettra dans le futur de pouvoir se passer de mot de passe dans la quasi-totalité des cas pour par exemple, se connecter à des sites web en utilisant son téléphone comme jeton d'authentification. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un identifiant, un mot de passe, on arrive sur le site web, on dit c'est moi, il y a une alerte sur le téléphone et on confirme que c'est nous avec la reconnaissance faciale ou la reconnaissance d'empreinte digitale. C'est assez proche pour essayer d'illustrer ça. Vous êtes déjà rendu compte, je suppose, et nos auditeurs aussi, que lorsque on lance Safari et qu'on va sur iCloud.com, on n'a pas forcément besoin de mettre son mot de passe de compte iCloud pour se connecter. Il suffit de mettre le mot de passe de son Mac ou de se connecter avec l'empreinte digitale sur son iPhone. C'est un peu le même système. Alors celui-là n'est pas compatible avec Passkey, mais on va espérer qu'on aille vers un futur sans mot de passe qui serait quand même plus pratique pour tout le monde. Après, comme j'ai la coutume de dire, le diable se cache dans les détails,
Ouais.
donc faudra voir comment ça marche.
Tu parlais de l'appli podcast Fabrice. Je voulais juste ajouter deux petits détails. Le premier, alors qui est très surprenant, c'est qu'on peut désormais, pour les podcasts payants, s'abonner de manière annuelle. Il faut savoir que les éditeurs pouvaient proposer un abonnement annuel depuis le départ dans le back-office. Mais ça ne se reflétait pas côté client. C'est qu'on ne pouvait s'abonner que mensuellement. Et donc, on peut désormais s'abonner annuellement si l'éditeur a prévu une offre annuelle avec un prix évidemment plus intéressant. Et puis, l'autre nouveauté, elle est vraiment côté éditeur. C'est de la cuisine interne, mais ça peut intéresser certains d'entre eux qui nous écoutent. C'est qu'on va pouvoir désormais utiliser des plateformes d'hébergement comme Acast et un certain nombre de grands acteurs pour publier directement sur la version payante d'Apple Podcast. Jusqu'à maintenant, il fallait passer par la plateforme Apple qui s'appelle Podcast Connect. Et donc, ça obligeait, par exemple, si on était à la fois chez Spotify et Apple, à remplir une fiche pour un épisode dans l'interface d'Apple et une autre fiche dans l'interface de Spotify. Désormais, en tout cas pour la partie Apple, on pourra remplir une fois la fiche et puis demander à ce que ça se soit envoyé sur Apple Podcast en payant, ce qui n'était pas possible auparavant. Voilà des petits détails. Ça s'appelle Delegated Delivery en anglais, mon cher Fabrice. C'est tout pour iOS 15.5?
Oh, j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même, j'ai deux, trois petits
Allez,
trucs.
allez.
Allez, on va faire un petit truc. Deux petites choses. Pour ceux qui utilisent des manettes de jeu avec iOS, il y a notamment les développeurs ont maintenant accès aux gâchettes de la manette des PlayStation 5. C'est la techno DualSense de Sony. Et puis, autre chose peut-être plus important quand même. Pardon, je vais encore recevoir des trucs parce qu'il y en a qui jouent. Je vais parler de jeu en coup de cœur. Je me permets vite, je rappelle, pour pas qu'on m'envoie tout un tas de trucs. Non, dans l'application photo, il y a les souvenirs automatiques. Apple a mis en place quelque chose qui évite que les souvenirs évoquent des endroits qui peuvent être gênants ou en tout cas qui peuvent provoquer des mauvais souvenirs et donc qui sont liés au lieu, par exemple, liés à l'Holocauste ou au camp de concentration. Donc il ne
Ah.
proposera pas de souvenirs de photos. Si vous y êtes allé sur place, ça m'est arrivé, j'aurai pas de souvenirs concoctés par l'application photo automatiquement. C'est une démarche, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui demandaient autre chose qui est très difficile techniquement à mettre en place, qui est de ne plus montrer de souvenirs automatiques, par exemple, pour des personnes disparues récemment. Il y a des gens
Ouais.
qui ont eu la mauvaise surprise de voir apparaître des souvenirs de leur père, de leur mère, de leurs proches qui venaient de disparaître et du coup ça leur a fait tout bizarre. Je ne sais
Bien
pas
sûr.
comment Apple pourrait résoudre ce problème-là, mais en tout cas c'est un petit pas dans ce sens-là. Voilà pour iOS 15 et iPadOS.
Merci Fabrice. Bon, on revient vers toi évidemment dans quelques instants. François, avec toi, on va aborder macOS 12.4. C'est toujours montré, mais c'est la nouvelle version.
J'ai pas grand chose à vous montrer, du coup, il
Ah.
n'y a pas grande nouveauté. Ouais, fallait que je la fasse, je suis désolé. Elle est faite.
Merci.
En fait, comme souvent, depuis quelques années maintenant, les éléments que vous pouvez retrouver sur iOS, vous les avez aussi sur macOS. Il y a des petites mises à jour du côté d'Apple Podcast qui incluent un nouveau paramètre qui va permettre de limiter les épisodes stockés sur votre Mac. Ça supprimera automatiquement les anciens épisodes. Alors ça, c'est très utile parce que c'est vrai que ça arrive souvent quand vous abonnez à un podcast que vous n'allez pas écouter régulièrement. Alors je donnerai pas de nom parce que sinon je vais me faire des ennemis, mais je suis sûr que vous devez être dans la même situation que moi. Et du coup, c'est vrai que ça permet de le désactiver de manière rapide
On
et
n'a pas donné de
efficace.
nom, hein. On n'a rien dit.
Ah non,
Même sous la torture, on n'ira rien.
Non, non jamais.
Et puis essentiellement, et 50 nouveaux correctifs de sécurité, parce que visiblement, il y avait pas mal de petites failles à droite, à gauche, à corriger. Je ne sais pas si vous aviez vu d'autres petites nouveautés. Moi, c'est à peu près tout ce que j'ai vu.
Tu peux nous dire un mot quand même de la mise à jour indépendante là, pour le studio display, là, la fameuse version censée rendre une limpidité à la webcam.
Alors, tu as bien utilisé le mot « censé ». Visiblement...
Au moment où je dis ça, tu deviens tout flou, toi. On va préciser, c'est pas ta webcam, parce que tu es sur ton iMac M1. Hein. Donc, l'image est top, c'est ta connexion qui est...
C'est ma connexion de merde.
C'est ça. Bon, c'est pas grave. On t'entend, c'est le plus important pour le podcast.
Non, donc il y a une jolie mise à jour de notre fameux et bel écran qui a fait l'unanimité au sein de l'équipe d'iWeek, hein, je le rappelle. Je sais que Fabrice, tu en as commandé 4.
Oui, donc le
unanimité.
Non, c'est pas pour lui. Ouais, c'est pour
toi,
son
tu l'aimes bien cet écran, François. Ne assume ton amour initial pour cet écran.
Moi, je l'ai encore revu à l'Apple Store d'Atlantis à Nantes lundi, et je vais m'en acheter un parce que je le trouve vraiment esthétiquement réussi. Voilà, j'assume totalement. Non, il y a une mise à jour donc 15.5 du Micro Programme 2, notre bel écran Studio Display. Donc rappel, hein, ça se fait à travers macOS, et là, s'il n'est pas en capacité encore, moi je reste persuadé que ça arrivera peut-être avec la iOS 16. J'espère que Apple veut faire des progrès de ce côté-là. Donc une mise à jour du Micro Programme qui est censée régler les problèmes de webcam. Alors je n'ai pas pu le tester parce que je n'en ai pas, mais d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est un poil mieux. Mais j'ai dit un poil, et je pense que le poil est très petit.
Ouais, un poil sans du tout arriver au niveau de la webcam de l'iMac M1, qui est quand même la webcam de référence.
Ce qui est quand même une grosse bizarrerie, parce que théoriquement, c'est censé être la même chose, quoi.
Ben oui.
Mais non, justement, non. Passe... Mais non, parce que le capteur n'est pas du tout le même. Rappelons que le capteur n'est pas le même. Hein. Le capteur de l'iMac et des Mac M1, des MacBook Pro, pardon, c'est du 1080p standard en dur. Sur le Studio Display, c'est une caméra 12 mégapixels qui est recentrée, recadrée. Donc c'est pas le même capteur du tout, hein. Donc il y a beaucoup de calculs justement qui sont faits pour recadrer l'image, pour redonner un flux 1080p quand il peut. C'est pour ça que c'est bizarre, c'est qu'on part d'un capteur 12 mégapixels et on arrive à une image pas terrible à cause de tous ces calculs.
Voilà, tu as bien fait de me reprendre, je vais me fouetter.
Autre chose, François ?
C'est à peu près tout ce que j'avais vu. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le nombre de mises à jour de sécurité, c'est toujours assez flippant de voir 50 correctifs pour une mise à jour mineure. Ça fait quand même pas mal. Mais je crois que Fabrice, lui, a repéré d'autres petites choses.
Juste un petit truc. C'est vrai que je voudrais. T'as raison de le faire insister sur l'histoire du correctif de sécurité parce que c'est pas que des petits. Il y a des trucs qui touchent au noyau comme on dit, escalade de privilèges. Ça peut être un peu du franglais ça quand même. Du coup, qui donne accès au noyau en mode administrateur, etc. Enfin, c'est quand même assez catastrophique. Non, autre petite chose en fait que j'ai remarqué moi qui m'avait frappé, donc j'ai trouvé la réponse, c'est que après la mise à jour vers 12.4, la date avait disparu de ma barre de menu. Il ne restait plus que l'heure et la date avait disparu. Et en fait, c'est parce qu'il y a un nouveau réglage dans les préférences système, dans dock et barre de menu, qui fait que maintenant il y a marqué affiche la date. On peut choisir entre ne pas afficher la date, afficher la date tout le temps, ou afficher la date quand il y a de la place. Et il se trouve que ma barre de menu est remplie de petites icônes de partout, et donc il n'y avait plus la place. Donc il a fallu que je force l'affichage du jour de la semaine et de la date parce que ça me manquait beaucoup. Donc pour ceux qui auraient eu ce petit problème là, il faut aller dans les préférences système et préférences dock et barre de menu.
Moi, je voulais vous dire juste un petit mot de Swift Playgrounds 4.1. C'est le logiciel d'apprentissage du code, hein, pour faire vraiment court. Version donc qui existe sur iPad et sur Mac, gratuit toujours. La nouveauté, c'est qu'on peut désormais créer des apps pour Mac avec Swift UI. La seule condition, c'était de passer donc à cette version 12.4 de Monterey qui est donc sortie mardi. On passe à WatchOS 8.6, Fabrice. Quoi de neuf au poignet?
Alors, essentiellement pour les utilisateurs mexicains, parce que pour ceux qui ont une... Mais c'est vrai, en plus c'est assez rigolo. Ceux qui ont une montre Mexique et une montre avec un ECG, c'est maintenant disponible au Mexique.
Donc électrocardiocardiogramme, donc, pour ceux qui ne sont pas fait médecine.
Donc voilà, c'est maintenant disponible au Mexique. Bon, ça tout simplement parce que ça demande une autorisation des gouvernements de chaque pays. Les Mexicains auront aussi droit aux notifications d'arythmie de la montre. Donc si la montre détecte des problèmes de rythme cardiaque qui deviennent donc qui ne sont plus réguliers, là, vous aurez une notification. Et puis une autre petite chose, dans les options d'accessibilité, il y a l'ajout, j'ai pas eu pu encore essayer parce que ma montre vient juste se mettre à jour, vient de se terminer, c'est toujours très long les mises à jour des Apple Watch. Et donc dans les options d'accessibilité, on peut aller chercher et mettre et activer l'option d'une tape à deux doigts sur l'écran pour faire lecture pause quand on est à une écoute de la musique ou un podcast. J'espère que ça marche et que je dis pas de bêtises, mais c'est ça que dit l'option, si je ne m'abuse, dans les options d'accessibilité. Voilà.
Ok, donc ça c'était WatchOS 8.6. Est-ce qu'on a fait le tour, Fabrice?
Il reste tvOS.
Ouais.
Pour WhatsApp. Ellie, c'est quand même c'est ce qu'il y a de plus important.
Bien sûr.
Voilà.
Et Biz Agile aussi qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui.
Et donc, les deux seules choses que j'ai vues sur tvOS 15.5, alors on avait déjà parlé des Wi-Fi captifs, des réseaux Wi-Fi captifs qui sont dans les hôtels par exemple, où on se connecte à un réseau Wi-Fi, puis ensuite il faut écrire, il faut donner son adresse email par exemple pour avoir le droit de se connecter ensuite. Il me semblait que c'était déjà dans 15.4, mais pourtant il semble que ce soit indiqué comme nouveauté dans 15.5 aussi. Et aussi la possibilité de valider un achat. Quand on est dans l'application Apple TV, par exemple, on peut valider l'achat avec l'Apple Watch, alors qu'avant, on ne pouvait le faire qu'avec son iPhone.
Très bien.
Voilà pour tvOS 15.5.
Très bien. HomePod, parce que les enceintes ont aussi droit à leur mise à jour, est-ce qu'il y a quelque chose de connu? Une fonction connue?
Non.
Une petite chose, moi, que j'ai vu chez les Américains, mais j'ai pas pu le vérifier chez moi. Peut-être parce que j'ai des HomePod mini qui sont en paire stéréo, qui me les montrent pas. Mais on est censé pouvoir voir dans l'application maison la puissance du signal Wi-Fi reçu par les HomePod. Et je l'ai pas vu. Donc, mes chers camarades, vous qui avez des HomePod, si vous pouvez vérifier ça.
Ouais. Alors,
moi, je l'ai pas.
Tu le fais dans l'application maison en direct?
J'ai cru comprendre que c'était dans l'application maison et ensuite dans les paramètres des HomePod. Donc il faut faire un appui long là sur l'icône des HomePod et ensuite on peut aller descendre dans les paramètres du HomePod. Et je pensais que c'était là, mais j'ai pas trouvé. Voilà pourquoi je demande de l'aide à vous et à ceux qui nous écoutent. Ils trouveront peut-être, mais moi ça n'a pas marché.
Je ne l'ai pas non plus.
Ouais. On va vérifier, je suis aussi en paire stéréo, donc si ça empêche d'avoir accès à cette fonction, je serai dans le même cas que toi, Fabrice.
On va juste rappeler une petite chose pour faire la mise à jour de vos HomePod, si ça ne se fait pas automatiquement, c'est directement dans l'application Maison que vous allez pouvoir trouver le réglage, je le fais en même temps pour vous donner la démarche. Donc vous allez sur Maison, ensuite quand vous êtes dans l'application Maison, vous cliquez sur le symbole de la maison, de la petite maison qui est en haut à gauche, et vous pouvez aller sur Réglage du domicile, et quand vous allez sur Réglage du domicile, vous avez un petit menu qui apparaît, qui s'appelle Mise à jour, et quand vous cliquez sur Mise à jour, vous pouvez forcer les mises à jour. Vous avez une petite fonctionnalité qui vous permet de voir les mises à jour récentes, donc moi voilà, je vois bien que la mise à jour 15.5, c'est bien installé sur mes deux paires de HomePod, et ça améliore globalement les performances et la stabilité. Donc on voit qu'Apple, une fois de plus, détaille énormément le contenu de ces mises à jour.
On dit un dernier mot peut-être de ces nouvelles fonctions pour augmenter l'accessibilité qu'Apple a annoncées en même temps que l'arrivée de ces mises à jour.
Ils ont fait la même chose que pour l'annonce de la technologie de mot de passe. Ils ont attendu une journée mondiale de l'accessibilité, des choses comme ça.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont des fonctions qui devraient être montrées finalement dans iOS 16. Donc, ça nous donne une petite preview de iOS 16 qui sera montrée à la WWDC dans 3 semaines. Il y a des nouveautés en termes de. Alors, on va pouvoir voir l'écran de sa montre, faire un AirPlay de l'écran de sa montre sur son écran d'iPhone, peut-être pour le voir en plus grand, peut-être que ce sera plus intéressant pour certains, ne serait-ce que pour accéder peut-être plus facilement au réglage de la montre ou des choses comme ça. Il y a aussi des nouveautés dans la reconnaissance d'objets. La démo, c'est grâce à la réalité augmentée, on peut viser une porte, par exemple, et l'application sera capable de dire, et sûrement à haute voix, si j'ai bien tout compris, si la porte est ouverte ou fermée, ce qui, pour les malvoyants, me paraît vraiment très important et vraiment intéressant pour aider au
Super,
déplacement.
oui, bien sûr.
Ça c'est vraiment bien. Et puis là, Apple rattrape un peu Google dans le domaine des sous-titres automatiques qui pourront être, et on en parlera un petit peu tout à l'heure hein, avec ce qu'a annoncé Google, des sous-titres automatiques de traduction lorsque, je crois hein, c'est des traductions quand on est en conversation FaceTime avec donc d'autres personnes.
Il n'y aura
Donc
pas de
pour les gens qui ont
traduction, ce
du mal,
sera
hein.
uniquement en
Non, c'est pas
anglais
uniquement,
dans un
d'accord.
premier temps. Ouais.
Alors voilà, donc c'est les sous-titres automatiques pour aider les malentendants à pouvoir quand même converser via FaceTime. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Et puis il y a des améliorations dans la reconnaissance de certains sons, par exemple, pour que les malentendants, pareil, ou les sourds, puissent avoir à l'écran une description. Tiens, il y a une porte d'entrée qui a sonné, une alarme, un avion qui passe, ou des choses comme ça. Voilà. Voilà, des petites choses comme ça.
Merci Fabrice. Voilà, on a fait un bon gros tour d'horizon, je pense, de toutes les nouveautés apportées par ces mises à jour. Dernière question, mais j'ai senti la réponse quand vous avez parlé de ces failles de sécurité comblées. On n'attend pas.
Non, 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 on
Non, vous
n'attend
pouvez y
pas.
aller.
On y va tout de suite. Et je voudrais aussi ajouter que ces mises à jour de sécurité, une grande partie, concernent aussi Big Sur, macOS 11 et Catalina, macOS 10.15. Ça montre quand même l'étendue des dégâts, parce qu'il y a cette grosse palanquée de correctifs aussi pour les deux versions précédentes. Donc il faut y aller, il faut vraiment les faire tout de suite, oui, absolument.
À vos téléchargements et nous, bah c'est Pommes, le journal de la semaine. Après les Google Glass, Google a donc présenté lors de sa conférence Google I/O à la fin de la semaine dernière le prototype de ses nouvelles lunettes. J'ouvre les guillemets pour faire tomber les barrières de communication, c'est ce qu'a dit Sundar Pichai, le CEO de Google. Alors, elles ressemblent d'assez près à des lunettes de soleil type Ray-Ban, sauf qu'elles sont transparentes, complètement transparentes. Et à l'intérieur, il se passe des choses qu'on ne peut pas deviner si on ne les a pas sur le nez. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de présentation qui ne montre pas grand-chose, mais qui a quand même donné envie à pas mal de gens d'en savoir plus, Fabrice?
Oui, alors j'ai vu. Je préviens tout de suite, je vais remettre ma casquette de cynique. Parce que les démos de Google, on en a vu plein. Et il y a plein de choses qui ont été montrées qu'on n'a jamais vues en dehors des démonstrations. Donc, par exemple, les histoires de traduction automatique. Donc, pour expliquer de quoi on parle, donc la personne qui porte les lunettes voit devant ses yeux la traduction de ce que lui dit la personne en face d'elle. C'est formidable sur le principe, évidemment. Mais donc, on a déjà vu des démos comme ça avec les Pixel Buds. Il y a 2, 3, 4 ans, je me souviens plus, où on portait les Pixel Buds dans l'oreille et quelqu'un parlait en anglais et on entendait en français ou inversement dans l'oreille. On pouvait répondre en français. Enfin, bref. Donc, on a déjà vu ça et puis finalement, c'est jamais sorti. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc je suis un petit peu, je suis précautionneux sur le fait qu'on va le voir en vrai. Et autre chose, par exemple, Google avait montré une techno où un téléphone, un Pixel phone, pouvait répondre automatiquement à des appels. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, même s'il y en a aussi beaucoup d'appels automatiques, là, des robocalls, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des gens qui veulent vous vendre des cuisines, un tas de
plus
choses.
Ah, plus ça semble.
Ah oui, beaucoup plus, ouais.
Dur à croire.
C'est affreux. Et donc, le Pixel pouvait répondre automatiquement, voire même faire une réservation dans un restaurant sans que vous-même ayez besoin de parler dans le téléphone. Et on ne l'a jamais vu. Hein. C'était qu'en anglais déjà, mais c'est même pas sorti aux États-Unis. Donc voilà, donc je suis un petit peu... la démo, elle était jolie, mais pour l'instant, j'y crois pas trop, en fait.
François, qu'est-ce que tu as eu comme sentiment en découvrant ces lunettes?
C'est beau, mais j'ai hâte de voir ce qu'Apple proposera parce que au moins on sait que si Apple le présente, logiquement, si on oublie le AirPower, logiquement ce qu'Apple présente sort vraiment. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça donnera. Maintenant, comme d'habitude, ça fait envie, mais il faut se souvenir que les premières Google Glasses, ça a quand même été un four monumental. Donc à voir si cette deuxième version, parce que ça reste une deuxième version, une évolution quand même du concept d'origine, arrive à prendre, mais. Voilà, je vais faire comme Fabrice, je suis Saint Thomas, je croirai quand je verrai.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est que finalement, ces lunettes, elles sont censées... Alors, qu'il y a un moustique qui passe devant moi. Ces lunettes sont censées faire un truc que plein d'appareils font en fait, depuis un paquet d'années, finalement. Et cet usage unique que Google a présenté lors de la conf, en fait, a suffi à créer quand même une sorte de buzz... ce qui montre bien qu'il y a quand même une forme de fascination ou de rêve ou d'attente autour de l'objet lunette, j'ai l'impression.
Oui, je te rejoins. Et puis c'est quand même un objet qui est assez standard. Là, tu vois, tu es en face de toi de binoclars. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des lunettes et qu'on imagine assez bien, je trouve, le champ des possibles, tout ce qu'on peut envisager. Et c'est quasi, enfin, je vais pas dire inépuisable, mais il y a plein de potentielles choses. Et voilà, on n'a qu'une envie, c'est de voir ça en réel, mais quelque chose de fonctionnel sur la durée, quoi.
Ouais. Parce que Fabrice, l'idée, c'est pas d'inciter les gens à mettre des lunettes. Le point de départ, c'est vraiment de se dire, la plupart des êtres humains ont une paire de lunettes, mettent des lunettes parce qu'ils en ont besoin. Et donc, on va ajouter de nouvelles fonctions à cet objet, au-delà juste de voir correctement.
Ce qui pose un autre problème, en fait, pendant que François nous montre son Apple Watch, et il a raison, donc tout ça, c'est les wearables, comme on dit en bon franglais. Mais autant, la problématique des lunettes, c'est que oui, on peut proposer des lunettes à tout un tas de gens qui portent des lunettes comme François et moi. Mais s'il faut les recharger, le problème c'est qu'on les enlève pour les recharger et on les a plus. Si on enlève sa montre, ça nous empêche pas de bouger. Pour les gens qui sont vraiment bigleux, s'ils sont obligés d'enlever leurs lunettes au bout de 3 heures parce que la charge ne tient pas plus, il faut donc qu'ils aient deux paires de lunettes pour pouvoir changer, etc. Ça me paraît pas aussi pratique. Ouais, à Flelou, mais alors, et non, à Flelou, il va falloir en acheter 4 ou 5. Hein. Chin, alors, parce que du coup, il va falloir y aller. Hein. Donc, c'est assez intéressant parce que je pense qu'on n'a pas encore trouvé, et peut-être que c'est pour ça que Apple n'a pas encore présenté la chose. Hein. J'ai coutume de dire qu'Apple a non seulement présente des fonctions, mais présente des histoires, raconte des histoires. Là, il n'y a pas d'histoire. Super, on peut faire de la traduction automatique, ce qu'on fait déjà avec les téléphones depuis longtemps, y compris avec l'application traduction sur iPhone depuis un an ou deux maintenant, où on parle dans le téléphone et le téléphone recrache dans une autre langue, et ça marche très bien comme ça, hein, parce qu'on n'en a pas besoin tout le temps non plus. La démo qui était montrée, c'était une fille et sa mère qui, il se trouve, ne parlent pas la même langue. Alors déjà...
Faut les trouver.
Ça me paraît être... Il faut les trouver, hein. Bravo à Google d'avoir trouvé ça, en fait. C'est ça, la vraie démo, hein. C'est quand même assez rare. Donc voilà, c'était pas très convaincant en fait. C'est ça qui est marrant. Ton analyse est très juste. Ça montre un intérêt autour des lunettes. On doit pouvoir faire des trucs. Par exemple, dans des lunettes comme ça aussi, on pourrait montrer des directions. On sort du métro quelque part dans une ville qu'on connaît pas, tourner à gauche, tourner à droite. Ils ont montré ça sur l'écran d'un téléphone. Si c'est intégré aux lunettes, ça c'est vachement intéressant. Parce que aussi, ça donne de l'autonomie. Mais on n'y est pas encore, quoi, effectivement.
Et puis, on n'a plus à baisser la tête et les yeux vers son smartphone. D'où l'idée que ces lunettes, avec d'autres fonctions, effectivement, remplacent le téléphone. On parle d'un horizon d'une dizaine d'années. T'y crois, François?
À ce point-là, je ne suis pas sûr, parce que je pense qu'il y aura toujours des aspects tout bêtes. L'exemple qui me vient, c'est tu feras comment pour taper tes SMS? Tu les dicteras? Tu t'imagines quand t'es dans le métro, coucou chérie, j'ai envie de toi, j'ai hâte de rentrer à la maison, dans le métro, à mon avis, ça amènera quelques petits soucis, je pense. Donc non, je pense ce sera un complément au téléphone, mais ça ne remplacera pas le téléphone.
J'aime bien ton exemple, François.
C'est très très juste, hein, parce que on parle des gens, on regarde tous nos téléphones 200 fois ou 500 fois par jour, très bien, mais c'est pas uniquement pour regarder, c'est quelque chose d'interactif. On fait quelque chose sur
Ouais,
le
bien
téléphone,
sûr.
on lit, on répond à Twitter, on fait des trucs, et on fait pas ça avec la montre, parce que finalement, on peut répondre rapidement à un message sur la montre, mais on dit pas tout ça, tout ce que vient de dire François sur la montre, c'est pas pratique non plus.
Bon, et pour téléphoner, vous vous souvenez comment on faisait Jean-Yves Lafesse?
Ah bah, comme
Bah
ça,
oui, il se mettait le petit doigt dans
pourvu que ça
l'oreille et
dure.
hop, ouais,
Avec le petit doigt.
pourvu que ça
Pourvu que ça
dure,
dure, exact.
exactement. Allez, une bise à la fesse tout là-haut. On passe à la deuxième news de la semaine. Bah, ça concerne un changement de pratique sur l'App Store. Apple a fait sauter un verrou qui obligé à vous prévenir en cas de hausse de prix sur des abonnements à renouvellement automatique. Jusqu'à maintenant, vous deviez donner votre accord pour que l'abonnement soit prolongé. Désormais, l'éditeur peut augmenter le prix une fois par an et dans la limite de 50% du prix initial, sans forcément que vous répondiez positivement au message qui vous sera envoyé. Est-ce que ça risque pas d'aboutir à des excès? Je vous pose la question de manière très ouverte. François?
Après, il y a eu un garde-fou de mie quand même. Voilà, la hausse de prix doit pas être supérieure à 50% du prix initial, mais il n'empêche quoi. Si c'est un abonnement à 200 euros, ça veut dire que vous payez 100 euros de plus, quoi. Donc
Non,
c'est
non,
pas
non, il y a
négligeable.
un autre garde-fou. C'est limité aussi à 5 $ ou 5 €, j'imagine, pour
C'est
l'Europe.
vrai. Oui, c'est vrai.
Tu fais bien de préciser les choses une fois de plus, Fabrice, merci.
Mais bon,
Mais voilà,
la
ça.
plupart des apps coûtent moins de 5 euros. Donc,
La plupart. Maintenant,
si
pour
elles
certains abonnements,
augmentaient de 5 euros.
je pense aux applications du type Adobe. Tu peux t'abonner à la Creative Cloud à certaines versions via l'App Store. Donc ça, voilà, le tarif est plus important. Mais je pense que c'est une facilité pour les éditeurs. Je pense que c'est peut-être aussi un moyen de leur passer un petit coup de savon au passage, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bisbilles entre les développeurs d'applications et Apple par rapport aux 30%, par rapport à toutes. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Epic Games d'ailleurs, les gars. Mais voilà, je pense que c'est un bon moyen pour eux de dire, bah regardez, on fait des petits gestes de temps en temps quand même, les gars.
Fabrice, c'est aussi un moyen pour Apple sans doute de donner un coup de main aux développeurs qui forcément, aux éditeurs qui forcément perdaient en cours de route des abonnés qui ne voulaient pas forcément se désabonner, mais n'ayant pas répondu au fameux message les informant d'une hausse de prix à accepter, bah, passe à côté du message, ne valide pas et du coup se retrouve désabonné. Ça faisait aussi sans doute des revenus en moins pour les éditeurs.
Oui, je pense que et le fait que ce soit annoncé à quelques semaines de la WWDC, c'est pas innocent. Notamment en rappelant que pour les applications à abonnement, Apple prend ses 30% la première année, mais ensuite les années suivantes, la dîme baisse à 15%. Donc du coup, c'est intéressant pour les développeurs d'avoir des gens qui restent abonnés à leur service. Et s'il y a une coupure parce que l'utilisateur n'a pas répondu, et puis finalement il s'aperçoit qu'il n'a plus accès à son service, donc il se réabonne, et alors ça coûte un peu plus cher, il va se réabonner quand même, et du coup pour le développeur, c'est de nouveau 30% pendant un an. Donc je pense que c'est vraiment un coup de pouce pour les développeurs, pour faire mettre un peu de baume au cœur aux développeurs qui souffrent un peu en ce moment. Je pense que c'est ça aussi le principe. Moi, j'avais dit dans i5, ça me choque pas tellement un développeur, comme tu disais, Benjamin, les applications, quand même, en très très grande majorité, c'est quand même pas très cher. On a pris, nous, utilisateurs, d'assez mauvaises habitudes, je trouve, de penser que tout est quasiment gratuit ou vraiment très très peu cher. Et c'est quand on est développeur et qu'on vend pas beaucoup d'applications, on gagne pas beaucoup, donc on gagne pas bien sa vie, quoi. Donc, moi, je suis pas choqué par ça du tout, en fait. Je trouve ça normal.
En revanche, évidemment, on vous incite à faire un petit peu plus attention aux messages que vous recevrez des éditeurs qui, à un moment, ont besoin d'augmenter le prix de leur logiciel. Ne vous faites pas surprendre par une hausse qui, de toute façon, sera quand même limitée, comme on vient de vous l'expliquer. On passe à la troisième news de la semaine, alors qui peut, elle aussi, avoir des conséquences assez importantes dans la vie de tous les jours. C'est le tout début du déploiement de la fonction Tap to Pay aux États-Unis. Apple teste cette version du sans contact, en fait, au centre dédié aux visiteurs à l'Apple Park. C'est la boutique, hein, pour être clair, de l'Apple Park, là où on peut acheter des mugs et des t-shirts qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc, depuis quelques jours, on peut payer en approchant simplement deux iPhones l'un de l'autre. Il n'y a plus besoin de terminal de paiement. C'est ça qu'il faut retenir, François, de cette nouveauté, ce Tap to Pay.
Ouais, en fait, c'est clairement la simplification énormément des paiements. Alors, on connaît déjà, ça revient un peu à utiliser la même chose que ce que vous faites avec Apple Pay. La seule différence, c'est que pour Apple Pay, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, il faut un terminal de paiement, carte bancaire. Donc ça veut dire que le commerçant va devoir prendre un abonnement quelconque auprès d'un fournisseur de... La plupart du temps, c'est des banques d'ailleurs. Il y a des fournisseurs alternatifs, hein, je pense en particulier à SumUp qui commercialise des terminaux de paiement pour pas trop trop cher. Là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir de terminal de paiement. C'est un peu ce qu'on fait en fait avec Paylib ou ce genre de fonctionnalité où on peut s'envoyer de l'argent, sauf que là, ça veut dire qu'un commerçant pourra directement, voilà, vous tendre son iPhone et vous pourrez directement payer. Ça paraît hyper rapide, hyper intuitif. Maintenant, à voir comment ça fonctionnera au quotidien pour le commun des mortels.
Fabrice, ça peut être quoi le débouché de cette nouvelle techno qui repose sur le NFC, hein, donc il faut deux iPhone NFC, iPhone 10S au minimum.
Pour moi, c'est encore un petit pas de plus parmi tous les petits pas déjà franchis par Apple pour vraiment proposer de plus en plus de services bancaires directement. C'est de la désintermédiation dans son... tout ce qu'elle a de plus pur, c'est-à-dire que voilà, c'est de la concurrence. Ils sont capables de gérer des paiements, ils y vont doucement pour pas trop échauder les concurrents, mais il y a une boîte, par exemple les terminaux de paiement, il y a aussi une boîte comme JDC qui, on voit ça chez tous les commerçants. Les commerçants payent je sais pas trop combien, ils se plaignent souvent d'ailleurs des dîmes prises par ce genre de boîte là qui non seulement donc ils payent Visa, ils payent Mastercard, ils payent JDC, ils payent leur banque, et donc quand vous faites des petits paiements avec votre carte bancaire de 3-4 euros, le commerçant finalement il touche pas grand chose, quoi. Et avec cette désintermédiation là sur Apple Pay par exemple, rappelons-nous, hein, Apple touche une petite dîme, c'est très peu, hein, c'est 0,0 quelque chose pour cent. Ça coûte donc beaucoup moins cher aux commerçants, ça coûte pas grand chose non plus pour les utilisateurs, mais Apple gérant des centaines de millions de terminaux, ils pourront gagner beaucoup d'argent avec ça aussi, hein. On est en plein là-dedans, hein, comme on peut le lire dans, on va pas en parler maintenant, mais le bouquin de Trip Mikkel sur l'histoire d'Apple. Maintenant, Apple, c'est une boîte tellement grande que si, quand elle cherche des nouveaux marchés, c'est forcément des marchés à plusieurs milliards de dollars, sinon ça ne l'intéresse pas. Et donc là, les paiements mondiaux, ça l'intéresse.
Bon, on va suivre évidemment. Ce n'est que à l'Apple Park pour l'instant, mais il en sera peut-être question aussi à la WWDC dans 3 semaines, hein, de ce Tap to Pay.
Sûrement, oui.
Bon, à mon avis, ça va être évoqué.
Allez, on passe aux rumeurs de la semaine, à tout de suite. Et on commence par ce nouvel épisode autour de l'éventuelle disparition du Lightning sur l'iPhone. Ce serait acté pour l'iPhone 15, toute la gamme, donc deuxième moitié de 2023, qui basculerait en USB-C. Ming-Chi Kuo, qui a avancé l'hypothèse, a suivi avec d'autres tweets pour dire qu'en fait, ce seraient tous les produits Lightning qui passerait à l'USB-C, sans doute dans un délai assez court, parce que si un ingénieur dans son garage peut fabriquer le premier étui de recharge d'AirPods en USB-C, Apple peut sans doute le faire aussi, non Fabrice?
Oui, absolument. Ouais. non, sérieusement, il est plus que temps, quoi. Alors, il est plus que temps parce que l'USB-C, il faut vraiment que ça devienne un standard. Pense que Apple est un peu aussi sous la pression de l'Union européenne, tant mieux. Je voudrais pas totalement jeter la pierre à Apple quand même, parce que le Lightning, pour revenir un petit peu sur l'historique de cette prise, a été inventé par Apple, qui pourtant était aussi au bord de conception de l'USB-C, mais l'USB-C prenait un peu trop de temps et ils avaient besoin de remplacer le port à 30 broches précédent, qui prenait trop de place, qui était trop gros pour pouvoir miniaturiser leurs appareils. Et donc, bon, l'USB-C n'était pas prêt, hop, ils ont sorti leur truc, qui avait pas mal d'avantages, outre celui d'être prêt.
Et d'être réversible.
Et d'être réversible, comme l'USB-C, d'être tout petit, etc. etc. Mais maintenant, voilà, on voit bien qu'il n'y a qu'Apple qui l'utilise, il faut que ça change, quoi. C'est pas possible.
On passe à la deuxième rumeur de la semaine. Alors, elle concerne une commande de 13 satellites reçue par Globalstar, qui n'a pas voulu donner le nom de son client. Client qui a réglé 300 millions de dollars. La mission de ces satellites, c'est de déployer la bande de fréquence 53 au-dessus des États-Unis. Et on repense forcément à cette rumeur du SOS, que des satellites en orbite basse permettraient de réceptionner en provenance d'iPhone à terre. Alors, l'idée, c'est pas de pouvoir téléphoner, hein, c'est vraiment d'appeler les secours, hein, François.
Ouais, c'est une fonctionnalité qu'on avait évoquée juste avant la sortie de l'iPhone 13. Hein. Ça avait fuité, une fausse fuite, mais on se doutait que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Ça paraît intéressant, toujours dans l'optique d'Apple et de la protection, la santé, etc., d'imaginer que si vous êtes dans un coin paumé, en montagne par exemple, que vous voulez appeler les secours mais que vous pouvez pas
sans
le faire...
Sans réseau mobile, ouais.
Sans réseau mobile, c'est important de le préciser. Si je le dis pas, ça nuit à mon discours. Merci de le préciser, Benjamin. Mais voilà, sans réseau mobile, au moins là, vous aurez moyen de passer un SOS. On sent qu'Apple met vraiment le paquet là-dessus. Je pense à la détection de chute. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Apple joue énormément sur la fibre de la santé. On va dire que c'est pour le bien de tout le monde et pas juste un argument commercial. Je pense qu'il y a une part de voilà, Apple tient à protéger la santé aussi. Maintenant, à voir comment ça va se gérer. Et puis surtout, pour l'instant, on parle des États-Unis. Donc, est-ce que ce sera pas dans un premier temps une fonctionnalité réservée aux États-Unis? Peut-être.
Fabrice, tu disais dans FF que cette fonction te faisait rêver. C'était le genre de fonction qui te faisait encore briller les yeux.
Oui. Ça me fascine parce que l'iPhone comme outil de communication universel, et après peut-être des lunettes et des montres et tout ce que vous voulez, mais là c'est vraiment, ça passe par l'iPhone, et avoir ça dans sa poche, pouvoir communiquer d'une manière ou d'une autre partout dans le monde, là je trouve que c'est un truc qui donne une ampleur encore plus grande à l'iPhone, qui est déjà commencé un phénomène mondial, ceci cela, mais ce que vient de décrire François, voilà, je trouve ça fascinant, et c'est, Apple a les moyens. 300 millions de dollars, si c'est que ça, c'est quand même pas grand chose, ce sera pas que ça, hein. Je pense que 13 satellites, c'est pas suffisant pour couvrir toute la Terre, c'est pour ça que François doit avoir raison sur le déploiement aux États-Unis d'abord. Apple peut faire ça, et pour moi ça a beaucoup de sens, ça me fascine, ouais, absolument.
Alors la WWDC 2022 démarre le 6 juin, vous le savez, c'est dans 3 semaines. On va découvrir les nouveaux OS, notamment iOS 16, WatchOS 9. Est-ce que vous attendez plus en termes de design ou de nouvelles fonctions? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si vous deviez choisir,
Je pense
François.
que nouvelle fonction, moi le design je trouvais satisfaisant, donc je pense qu'on attend c'est des nouvelles fonctionnalités, mais qui seront énormément aussi dépendantes d'iOS 16.
Fabrice, tu choisis quoi toi?
Alors moi je choisirais design, pas tellement parce qu'il faut que ça change pour que ça change, mais pour alors là pour le coup, pour faire le contraire de ce que je fais d'habitude et reprendre un peu ma casquette de Johnny Ive, moi j'aimerais bien que la montre soit un peu plus fine. Là j'avoue que s'il y a un appareil que j'aimerais bien avoir un peu plus fin, c'est l'Apple Watch.
On parle des OS, hein, pas du matos.
Ouais, mais du coup, donc je me suis planté, c'est vrai. Et moi, finalement, bah, ça répond à la question. Ouais, finalement, bah, c'est ça. Donc l'OS pour le WatchOS, moi, c'est pas ça qui m'importe finalement.
Très bien, c'est plutôt la montre elle-même. Bon, en tout
Ouais.
cas, les OS, selon Mark Gurman, vont surtout évoluer au niveau des fonctions, pas tellement au niveau du design. Ça, c'est pour qu'on se prépare psychologiquement à la keynote du 6 juin et aux 4 jours suivants. Autre rumeur, l'arrivée du Dolby Atmos pour les podcasts. Alors, c'est pas une rumeur chez Wondery. Wondery, c'est une des plateformes de podcasts. Les premiers podcasts Dolby Atmos sont dispo chez Wondery. Alors, plateforme payante, hein, 4,99 $ par mois ou 34,99 $ par an. Donc, podcast en Dolby Atmos dans l'app Wondery sur iOS, mais les mêmes podcasts qui sont aussi dispo dans Apple Podcasts, là, ne sont dispo qu'en stéréo. Donc, c'est encore très très limité. La prochaine étape, et on y pense évidemment, c'est l'arrivée du Dolby Atmos pour les podcasts dans Apple Podcasts. Et ça semble tout à fait plausible, François.
Ouais, ça va arriver à un moment ou à un autre. Apple bouge énormément de ce côté-là. La plupart des casques Apple sont compatibles. Ça paraît logique. Ça va arriver. J'ai
Fabrice,
hâte.
ça peut avoir un
Mais
intérêt, ton point de
j'ai
vue
une
ou
bonne
pas?
question. Bah merci de voilà. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On va alors, on va passer par
Dans
le.
l'espace sonore, on pourrait être, tu vois, réparti presque géographiquement.
C'est ce que je vois.
Tu vois, Gilles tout en bas à gauche, Élie en bas à droite, moi au milieu en haut.
Alors,
François à gauche, en haut, tu vois ce que je veux dire?
derrière. Non, mais je veux bien, mais du coup, moi, j'aurais envie de
Je
demander à
plaisante.
nos auditeurs de s'exprimer sur le sujet. J'aimerais bien qu'ils nous donnent leur avis, ce qu'ils ont envie de ça. Moi, en tant qu'auditeur et écouteur de podcast, j'en vois pas l'intérêt du tout. Pour les producteurs de podcast que nous sommes, t'imagines le boulot supplémentaire pour spatialiser, sous prétexte qu'on veut faire semblant d'être autour d'une table véritablement pour que ceux qui nous écoutent puis tournent la tête quand quelqu'un prend la parole en écoutant ça au casque, je comprends pas l'intérêt. Moi, je reste persuadé que toutes ces technologies autour du son spatial, c'est pas pour la musique, c'est pas pour les podcasts, c'est pour le casque en réalité virtuelle. Et que tout ça, c'est mis en place pour que lorsqu'on aura le casque sur les yeux, on ait aussi là du coup la virtualisation du son et que ce sera très important parce qu'on sera dans un monde virtuel. Pour écouter des podcasts, je m'excuse, mais franchement, à quoi ça sert?
Bon, alors, puisque tu parles du casque de réalité mixte, en fait, futur éventuel casque Apple, la dernière rumeur dit qu'il pourrait comporter un écran sur sa partie extérieure. Alors, il fallait vraiment lire pour comprendre l'idée, parce que au début, ça me semblait pas complètement clair. C'est Information qui a consacré tout un papier à ce projet, hein, qui apparemment a démarré il y a 7 ans chez Apple. Donc, ils ont du mal, même en interne, ils avaient même du mal à être sûr que ça avait un intérêt et que les utilisateurs aimeraient le porter longtemps, ce qui est quand même un problème quand tu bosses sur un produit. Non, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le principal, enfin, l'un des principaux écueils selon les gens chez Apple à qui The Information a pu avoir accès, c'est que le casque te coupe de ton environnement extérieur. Forcément, c'est ce qui se passe avec tous les casques type Oculus, etc. Et donc, la double idée serait non seulement d'avoir des caméras qui pointent vers devant soi pour restituer cette image dans le casque, et en même temps, cet écran extérieur qui serait peut-être un écran incurvé, comme tu le disais dans Hi5 François, afficherait le visage qui est caché par le casque pour que les gens qui sont devant nous voient nos réactions, voient nos yeux, comme si on portait pas de casque en fait. Je sais pas si je suis très clair.
Totalement clair.
Ça fait beaucoup de techno, très cher.
Oui.
Autant pas mettre deux casques, ce sera moins cher.
Non mais c'est ça le truc. Alors là, alors j'aurais envie de dire pour Apple a tendance à réinventer les technos, etc. Et donc là, ils sont en train, s'ils faisaient ça, ils réinventeraient l'usine à gaz. Parce
C'est un
que
peu ça, ouais.
c'est affreux. Donc on met un casque, mais on veut surtout pas voir qu'on porte un casque, et donc on reproduit le visage sur l'écran qui sera à l'extérieur du casque pour ceux qui nous regardent porter le casque. C'est formidable.
C'est ça, ouais.
Mais c'est non, je vois, et du coup toutes ces caméras, tous ces écrans qui demandent beaucoup d'énergie, alors du coup il faut 30 kilos de batterie sur le dos quoi pour pouvoir l'utiliser plus d'une demi-heure. Enfin, ça n'a pas de sens quoi. Vraiment je comprends pas. Et puis si on met un casque de réalité virtuelle ou augmentée ou mixte, d'accord, c'est pour essayer de rester en partie présent avec les gens qui sont dans la même pièce. Je crois pas que ce soit ça la réalité mixte en fait. Et puis sinon, je pense que c'est déjà résolu cette problématique-là par le casque de Microsoft dont le nom m'échappe là maintenant tout de suite. Dont
HoloLens.
l'HoloLens, merci, qui a un écran devant les yeux mais qui est translucide. Donc du coup, on voit un peu les choses devant soi, les gens voient un peu ce qu'on fait, on a les expressions de visage. Ça, c'est marrant, c'est déjà fait quoi, on sait déjà faire, donc pourquoi mettre des caméras en plus, je comprends pas ça, effectivement.
Bon, ben, on n'est pas au bout de nos peines avec ce projet de casque, hein, qui normalement, si tout va bien et s'il arrive, devrait précéder les fameuses lunettes qui sont toujours pour allez, 2024-2025. Comme ça, vraiment au doigt mouillé, comme on dit. On marque une toute petite pause et on passe au tuto audio. Suite de la semaine dernière, on avait vu comment extraire l'audio d'une vidéo sur Mac. Cette semaine, je vais vous expliquer comment faire pareil, mais sur un iPhone ou un iPad. Transformer une vidéo en fichier audio, ça a l'air tout simple quand on le dit comme ça, mais c'est loin d'être évident, notamment sur vos appareils mobiles, iPhone ou iPad. Alors on va essayer de faire la manip ensemble. Je ne sais pas si vous pouvez prendre votre iPhone, les garçons, et je vais vous expliquer comment faire. Il y a trois méthodes en fait. Bon, la première, on va passer dessus assez vite. Elle repose sur iMovie. C'est vrai que vous pouvez importer votre vidéo dans iMovie, l'exporter en audio, on peut y arriver, mais c'est pas du tout la méthode la plus simple. Elle vous oblige à passer par iMovie qui n'est pas vraiment fait pour ça. Et puis il y a plusieurs étapes. C'est pas la méthode que je vous conseille. La deuxième méthode, elle est plus rapide, elle est plus simple. Elle consiste à passer par un raccourci. Ah oui, il faut créer un raccourci, mais c'est pas compliqué. On va le faire ensemble si vous le voulez bien. Je sais pas si vous avez déjà créé un raccourci. François? Oui. Fabrice?
Oui, mais je vais pas le faire en même temps que toi, parce que sinon j'ai peur que ça coupe ma connexion internet, donc
Ah
je
oui,
vais
bon
changer de
alors.
téléphone.
Peut-être Fabrice,
Ce
alors
serait bien.
t'as le doigt sur
Ouais,
ton
je vais faire.
iPhone.
J'en ai fait très peu des raccourcis.
Allez.
Donc allons-y, je
Alors on y
t'écoute.
va. Donc vous ouvrez l'appli raccourci, qui est par défaut dans iOS. Tout en haut à droite, vous avez un plus. Donc vous cliquez sur le plus. Pour créer un nouveau raccourci, évidemment. Vous donnez un nom à votre nouveau raccourci. Bon, nous, on va l'appeler Extraire Audio iWeak, histoire de s'attribuer un peu les lauriers, quoi, le truc. Cliquez juste en dessous sur Ajouter une action. Juste en dessous, vous avez plus Ajouter une action. Une fenêtre assez encombrée apparaît, sous catégorie, tout en haut, dans la colonne de gauche, normalement, en face de la note de musique, vous avez Média. Donc, cliquez sur Média. Une autre fenêtre apparaît. Alors, il faut scroller jusqu'en bas. Elle est assez longue, donc il faut scroller quasiment tout en bas.
Oui.
Et sous vidéo, il faut cliquer sur encoder le contenu multimédia. Est-ce que tu vois encoder le contenu multimédia, Fabrice?
Alors, je dis à vidéo. Oui,
Faut aller jusqu'en
absolument. Oui,
bas.
c'est tout en bas.
Tout
Oui,
en bas,
tout à
hein.
fait. Ouais.
Alors donc une fois que tu as cliqué sur encoder le contenu multimédia, tu retrouves cette action dans la fenêtre suivante. Et À droite, il y a une petite flèche vers la droite. Ouais. Tu cliques dessus et ça va te faire apparaître 3-4 lignes. Il va falloir valider la case en phase de audio seulement. Est-ce que tu es toujours avec moi, Fabrice ?
Ouais, j'y suis, absolument.
Alors, par défaut, tu dois être en M4A pour le format.
Oui.
Soit tu laisses en M4A, qui est un format compressé, soit si tu veux plutôt être en non compressé, tu cliques sur format, et là tu peux passer en AIFF. Moi je préfère l'AIFF perso, parce qu'il ne détruit pas les données du fichier. Dans la même fenêtre, il faut descendre un tout petit peu plus bas. Tu dois avoir une étiquette, un intitulé qui est « Définir le nom ».
Oui.
À la place de nom, là tu tapes le nom que tu veux donner à tous les fichiers audio qui seront générés à partir d'une vidéo. Un nom générique, ça peut être extrait audio iWeek par exemple, ou ce que tu veux. Ça permettra de le trouver plus facilement ensuite dans ton iPhone. Si tu laisses tel quel, le fichier s'appellera comme le fichier vidéo qui a servi à le générer en fait. Encore en dessous. Tu as enregistré le fichier. Pareil, il faut cliquer sur la petite flèche à droite. Et à droite de éléments renommés, il faut cliquer à nouveau sur la petite flèche vers la droite pour faire apparaître les options dont celle-ci demander ou enregistrer. Donc il faut passer le bouton en vert juste en face de demander ou enregistrer. Ça fera que l'iPhone vous demandera à quel endroit vous voulez sauvegarder le fichier audio créé à partir de la vidéo. Une fois que vous avez fait tout ça, ben, on a fini en fait. Il faut refermer en cliquant sur la croix tout en haut à droite. Je précise qu'une fois que vous avez votre raccourci qui apparaît dans l'application raccourci, tu le vois Fabrice ?
Oui, tout à fait.
Tu cliques sur les trois petits points dans le rectangle du raccourci qui va ouvrir le raccourci avec les différentes actions. Et dans cette fenêtre en haut à droite, à gauche de la croix, tu as un logo sur fond bleu avec trois petites lignes.
Ouais, les petites réglettes. Ouais.
Voilà, tu cliques dessus.
Ouais.
Et là, dans détail, il faut cocher dans la feuille de partage. Il faut que le bouton soit vert en face de dans la feuille de partage. Tu valides en cliquant sur OK. Et à partir de là, tu vas retrouver ce raccourci à chaque fois que tu voudras partager un document et que tu cliqueras sur le bouton de partage. Donc on va aller dans l'application photo, on va choisir une vidéo, n'importe laquelle.
Oui.
Et une fois qu'on est sur la vidéo, on va cliquer donc sur ce bouton de partage qui est le carré avec la flèche vers le haut. Et là, si on fait défiler jusque la partie la plus basse de la fenêtre, on doit retrouver une ligne avec le nom de notre raccourci.
Je confirme.
Donc là, on clique sur, dans mon cas, extraire l'audio iWeek. Là, la préparation va de la vidéo va commencer. L'écran suivant va nous demander, comme on l'a demandé justement, à quel endroit on veut sauvegarder le fichier audio qui va être créé. Donc là, on choisit l'emplacement de notre choix et on valide en faisant OK. L'intérêt de cette manip, bon, certes il faut la faire, mais une fois que c'est fait, vous avez en permanence dans votre iPhone un raccourci qui vous permet de récupérer et d'extraire l'audio d'une vidéo quelle qu'elle soit. Donc vous le faites une fois et après c'est bon ad vitam entre guillemets. Ça marche Fabrice ?
Ça marche. Alors, il m'a pas demandé où enregistrer. Il veut pas. C'est pourtant activé, mais il me demande pas où enregistrer les fichiers. Voilà. J'ai été revérifié.
Rends ta contrefaçon d'iPhone, Fabrice. Rends-la. Rends-la à ceux à qui tu l'as acheté.
Et alors, une vraie conclusion de ça, c'est que quand même, c'est tellement plus facile sur Mac.
Bon, merci d'avoir été un très bon élève quand même. Fabrice, chez François, ça marche, je crois. Donc, j'en ai au moins un sur deux qui a suivi. Merci.
J'étais très appliqué. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Merci, Benjamin.
Mmh. Ma maison connectée, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé domotique dans iWeek. Bon, il faut dire, François, que tu déménageais, donc c'était une période un peu particulière pour toi. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actu, mais ça commence un petit peu à repartir, on dirait.
Oui, bah, y a des nouveautés qui vont arriver sur Matter. Ça te va comme ça, Fabrice? Matter?
Matter, très bien.
Ouais, on vous explique, c'est parce qu'il y avait débat sur la prononciation de ce standard qui, voilà, qui est promis pour l'automne prochain.
Oui, oui, non, il y a des petites nouveautés. Samsung a commencé à lancer son programme partenaire. Donc Samsung qui propose un service de maison intelligente aussi, à l'image de ce que peut proposer Apple avec HomeKit, et donc propose aux fabricants de produits connectés de pouvoir tester la compatibilité de leurs produits Matter avec SmartThings, le système de domotique par Samsung. Donc on voit que les différentes pierres sont en train de se mettre en place, et je pense qu'on va avoir le droit à notre jolie maison connectée. Je rappelle juste rapidement le principe de Matter. C'est qu'aujourd'hui, le souci, c'est que quand vous achetez un périphérique, il faut qu'il soit compatible avec Alexa, il faut qu'il soit compatible avec HomeKit, il faut qu'il soit compatible avec Google Home ou autres SmartThings. L'idée, c'est d'avoir un protocole standard, c'est-à-dire que vous achetez par exemple une lumière connectée, et votre lumière connectée, vous pourrez l'utiliser avec HomeKit ou avec Alexa ou avec les autres. Et l'idée, c'est d'avoir un protocole qui soit compatible avec tous les systèmes de domotique proposés, donc c'est plutôt intelligent. On sent que ça met du temps à prendre, maintenant il faut quand même que tout le monde se mette d'accord et arrive à proposer quelque chose de satisfaisant, donc je pense que c'est pour ça que ça met un peu de temps, mais voilà, j'espère que pour l'automne on y arrivera. Et puis la deuxième petite news, on en avait parlé au mois de janvier, elle avait été présentée lors du CES, la caméra Eve Outdoor Cam, donc une caméra extérieure, caméra de surveillance qui repose sur le protocole HomeKit Secure, donc compatible HomeKit, vient de sortir, ça y est, elle est disponible, vous pouvez la trouver chez votre revendeur préféré. Je ne sais pas si Ellie l'aura en stock chez MCS, mais je pense que oui, et je pense qu'il s'empressera de la tester, donc vous pouvez la trouver sur des sites de revente, une marque américaine dont je tairai le nom, achetez pas chez eux bien évidemment. La caméra coûte quand même 250 €, donc il faut que vous puissiez l'alimenter, hein. Il faut de quoi la brancher électriquement. L'intérêt, c'est qu'elle ne se lancera que si elle détecte quelque chose, et que vous avez aussi un système évidemment de vision infrarouge, et aussi un petit ça fait office de lumière. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Moi, je commence à regarder sérieusement pour m'équiper de caméra extérieure, caméra de surveillance, pour voilà, vérifier l'entrée, la maison, que tout se passe bien. Donc je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Ce sera peut-être ça ou autre chose, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas tarder à pouvoir remettre en place toute ma domotique, donc j'aurai bientôt de nouveaux tests à vous proposer.
Merci François. Est-ce qu'on parlera HomeKit à la WDC, à ton avis ?
Oh bah, j'étais en train de me dire, ah, je vais arriver au moment où je vais faire ma wishlist de ce que j'attends pour HomeKit, mais je pense que je vais reprendre ma wishlist de l'année dernière, parce que Apple n'avait coché aucune case, donc on peut espérer que pour cette année, ils en cochent un peu plus. Je pense qu'on va parler de Matter, ouais. Je pense.
Merci François. Allez, on est presque à la fin de cet épisode, c'est le moment de nos coups de cœur de la semaine. Fabrice, on commence par quoi ? Fabrice, on commence par toi.
Et donc par quoi alors ? Et donc, on par commence quoi, par ouais. Donc une fois n'est pas coutume, Apple Arcade que j'utilise, et il y a un nouveau jeu qui
c'est
s'appelle
toi
Gear. Oui, c'est moi. Gear Club Stradale. Je suppose qu'on dit Stradale. Je sais pas exactement en fait. C'est un jeu de voiture. Que je trouve très bien fait. J'ai une manette compatible avec l'Apple TV, et bah, j'aime bien ça. Le jeu est assez simple à jouer, l'effet de conduite est bien, moi j'aime bien ça, les jeux de bagnole, ça me plaît bien. Et je conseille pour ceux qui ont un abonnement Apple Arcade d'aller télécharger ce jeu-là, qui est vraiment bien fait.
C'est donc toi, Satanas 32 ?
Exactement, Satanas 32. Alors, ce qui me concerne, c'est 31, parce que j'habite dans la Haute-Garonne. Mais sinon, absolument. Non, mais voilà. Je suis pas un grand joueur, donc j'ai pas de console de jeu, mais voilà, l'Apple TV pour moi c'est aussi une console de jeu, et il y a ce jeu-là qui vient de sortir que je trouve très joli à regarder.
François, ton coup de cœur de la semaine ?
Alors moi c'est un peu de photo, comme vous savez, à mes heures perdues je pratique la photographie de manière régulière. Ce week-end j'ai eu l'occasion de faire un petit voyage sympa en Corse et j'avais enfin réussi à me trouver un nouvel objectif. Donc moi je suis équipé de matériel Fuji. J'aime beaucoup la colorimétrie Fuji. On peut utiliser ce qu'ils appellent les simulations de films. Donc vous simulez des pellicules que vous utilisiez, messieurs. Moi je suis désolé, j'ai peu connu la pellicule, mais voilà que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Donc je me suis commandé un objectif qui est un 18-300 de chez Tamron, un 18-300 mm, qui est plutôt intéressant parce qu'il est très polyvalent. Ces dernières années, j'avais souvent tendance à partir avec un voire deux boîtiers pour avoir deux focales différentes. Parce que chez Fuji, par exemple, il y avait un objectif qui était un 70-300, qui était très bien, mais c'est vrai que dès que je voulais photographier quelque chose de plus large, j'étais bloqué. Et donc cet objectif a été présenté il y a plus de 6 mois, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le trouver. On parle souvent de la pénurie de composants pour l'informatique, mais pour la photo c'est pareil, quand des marques annoncent des objectifs, c'est très compliqué de se fournir. Donc j'ai pu me fournir avec ce 18-300, donc qui est vendu quasiment 800 € quand même. Ce qui est un prix certain, compatible avec la monture Fuji. Fuji, jusqu'à maintenant, Fujifilm n'autorisait pas des fabricants tierces à proposer des objectifs compatibles. C'est le cas depuis quelques mois, années maintenant. Et donc Tamron nous propose un objectif qui est très polyvalent. Le piqué est très bon. Seul petit défaut, l'ouverture qui est pas constante. J'ai plus les valeurs d'ouverture dans la tête, mais l'ouverture est pas constante, mais le rendu est vraiment très sympa. J'aurai l'occasion de publier des photos d'ici peu, je pense. Voilà, bon moyen, et je vous incite, pour ceux qui aiment bien la photo, à regarder du côté de chez Fuji. Je suis un grand fan de cette marque.
C'est la fin de cet épisode 91. Merci beaucoup d'être aussi fidèle au rendez-vous d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Je vous rappelle toujours patreon.com/iWeek pour nous soutenir, Twitter @iWeekNews, et puis i5, déjà 182 épisodes quotidiens à votre disposition. À propos d'i5, on vous rappelle cette journée importante de lundi prochain. On sera le 23 mai et on va vous révéler sur Twitter à quoi correspond ce compte à rebours qui est réglé sur la date du 31, un compte à rebours qui en est donc à J-12 et presque à J-11 en ce jeudi soir. Passez une bonne fin de semaine, les amis. Merci d'avoir été fidèle au poste, François Le Truédic, Fabrice Neumann. Fabrice, on te retrouve sur ton site.
On me retrouve sur mon site pro-fusion-conseil-au-pluriel.fr. Et sur Twitter aussi.
Twitter, évidemment.
En cherchant juste mon nom, Fabrice Neumann. Voilà, je n'ai pas de pseudo.
Passez une super fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve, nous, jeudi prochain, même heure. On sera le 26 mai et ce sera l'épisode 92. Salut à tous, à très vite. Bye
Salut
bye.
À toutes et tous, à très
Salut,
vite.
Salut, bye.